Parfait, on revient à Montréal. Il y a une tragédie qui s'est passée ces dernières heures. Il y a un sans-abri qui a été retrouvé mort, gelé, un itinérant autochtone qui est mort pendant le couvre-feu. Raphaël, de son surnom Napa André, est mort seul dans une toilette chimique à l'angle de la rue Milton et de l'avenue Park, à deux pas d'un refuge pour itinérants qu'il avait l'habitude de fréquenter, rapporte la presse. Annie Guillemette a des détails là-dessus. Et après, on va parler avec notre ami Dan Bigrotte, tout ça. Salut, Annie.
Bonjour, Patrick.
Donc, Annie, on l'a dit, hein, c'est une tragédie. Mmh. Et ce que les gens veulent comprendre, dans le fond, c'est comment ça se fait qu'il n'était pas dans le refuge qui est juste à côté.
C'est ça, le refuge La Porte Ouverte est un centre qui est vraiment très, très, très ouvert. On ne refuse personne pour de la consommation. On répond aussi aux besoins de certaines clientèles, par exemple les Autochtones. Et M. André fréquentait ce refuge-là de façon régulière, semble-t-il. Là, qu'est-ce qui s'est passé samedi soir? On se l'explique mal. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y avait eu une éclosion de COVID-19 au début de l'année. Et donc, les heures de service avaient été un peu modifiées. Semble-t-il que les portes se ferment à 21h30. La clientèle de ce refuge-là entre et sort pas vraiment à des heures fixes. Donc, est-ce qu'il est arrivé après et s'est retrouvé devant une porte fermée? Mmh. C'est possible. On verra selon les enquêtes. Mais toujours est-il qu'effectivement, on l'a retrouvé décédé dans une toilette chimique. Et cette toilette-là, là, c'est à un jet de pierre de la porte du refuge en question qui est sur l'avenue du Parc au centre-ville.
Donc, on ne sait pas pour l'instant si ce pauvre homme-là a été refusé au refuge par manque de place. Ça, c'est pas clair.
Pour l'instant, on n'a pas ce détail-là. Faut dire qu'il y a une enquête du coroner qui a été ouverte. Donc, on va se pencher parce que le coroner, on le rappelle, là, se penche sur les morts suspectes, les morts violentes, les morts inexpliquées. On a décidé d'ouvrir un dossier concernant la mort de M. André. Et il y a aussi plusieurs réactions. Vous allez parler à Dan, mais il y a aussi beaucoup de gens à qui j'ai parlé aujourd'hui qui questionnent le fameux couvre-feu et l'application du couvre-feu pour les personnes itinérantes à Montréal.
OK, merci beaucoup, Annie Guillemette. Donc ça, ce sont les faits. Annie nous a dit ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et on va parler immédiatement à Dan Bigra. Vous connaissez Dan, le chanteur, l'animateur, mais aussi l'homme engagé pour lutter contre l'itinérance, l'exclusion des personnes marginalisées. Vous savez, Dan est très impliqué avec le refuge des jeunes. Salut, Dan.
Salut, Pat.
Dan, je ne vais pas lire la première phrase du tweet que tu as envoyé en apprenant la nouvelle parce qu'il y a des enfants qui sont à l'écoute, mais disons, il y a beaucoup de gros mots là-dedans. Ta première réaction...
C'est des instruments d'église, il y en a deux.
Ta première réaction, même sans savoir là, c'était quoi le fin détail, ça a été de penser qu'il faut réhumaniser l'itinérance.
Ben, c'est bien certain. D'abord, juste un détail. Si vous voulez savoir si vraiment la cause, c'est qu'il n'avait pas pu rentrer dans son refuge, appeler dans son refuge puis demander s'ils étaient pleins hier soir. C'est tout. Ça se compte comme ça. À notre refuge, nous, refuge des jeunes de Montréal, on ne peut pas garder une capacité pleine à cause d'une distanciation qu'on est obligé de garder et on comprend ça. Maintenant, on s'aperçoit de d'autres choses. Ils peuvent plus quêter. Les magasins n'acceptent pas d'argent cash, puis on s'entend que les itinérants n'ont pas de carte de crédit. Alors, on donne des boîtes à lunch. Alors, tout le monde essaie de se réinventer. Maintenant, il y a ça va peut-être l'être hors sujet, mais si on parle, par exemple, de drogue et de prostitution, garder ça illégal, ça fait juste prendre des personnes qui sont vulnérables puis les envoyer plus dans le noir. Et là, on fait la même chose avec les itinérants. J'ai l'air de toujours blâmer la police avec ça, puis je veux pas faire ça. C'est pas la police.
Non, la police applique le règlement, là. Ouais.
Oui, oui. Puis la police sont des humains. Fait que des humains, ben, ils réagissent pas tous pareil. Il y en a qui ont des mauvaises interventions, puis il y en a un paquet qui ont d'excellentes interventions. C'est pas ça. Mais il faut que le gouvernement donne des consignes claires au début pour que les policiers sachent quoi faire pour commencer. Et là, on les repousse dans le noir de plus en plus loin. Et on leur... c'est facile. Si toi, d'abord, deux sujets. Couvre-feu. Toi puis moi, on sait qu'il faut rentrer chez nous avant une certaine heure. On est capable de le faire, on le fait. fin de l'histoire. Si notre job nous empêche, on a un papier de notre employeur qui, on peut toujours tout faire ça. Les itinérants, d'abord, ils savent pas tout quelle heure qui est. C'est pas tout le monde qui a la notion du temps quand t'es dans la rue. Ils ne le savent pas. Ils savent juste qu'à un moment donné, il fait noir, puis ils commencent à voir des chars de police, puis ils ont peur, puis là, ils vont se cacher. Plus profond, ils vont se cacher, plus difficile, ils vont être à rejoindre, plus on va en retrouver mort gelé. Ça, c'est juste une équation normale. Ensuite, l'étiquette. Toi puis moi, on se fait donner une étiquette, hey, on va changer d'idée, puis on va modifier nos comportements. On n'aime pas ça, payer une étiquette, c'est pas le fun, ça sert à ça. Je comprends ça. C'est plate, c'est la vie. Eux n'ont pas les moyens de les payer. Est-ce qu'ils n'ont pas de quoi manger? Alors, ça vient d'arrêter là. La seule chose que ça fait, c'est que s'il y en a un qui, à un moment donné, dans 10 ans, 15 ans, va pouvoir reprendre sa vie en main, se trouver un job, puis se louer un petit appartement, la police va se pointer parce qu'il va être mandat. Parce que même en cas de faillite personnelle, il y a trois choses maintenant dont tu ne te débarrasses plus. C'est la pension alimentaire, avec raison, les prêts étudiants, à tort, et les étiquettes. À tort dans le cas des itinérants. Même en cas de faillite personnelle, parce qu'avec les frais, là, ton 500 pièces d'étiquette que tu as ramassé pendant que tu étais en rue,
ça monte à 1000 rapidement.
À 1000, tu fous à 15 000. Puis je le sais, puis je l'ai fait personnellement quand j'étais jeune, puis moi, je me suis tanné, j'étais à la banque, je les ai payés, puis c'était mon problème, je l'ai réglé. Mais on s'entend que quand tu es dans la rue, ils te donnent des tickets, tu sais pas quoi faire. T'es même pas dans tes poches, t'es laissé à terre là, puis tu t'en vas, tu ne sais pas quoi en faire. Fait qu'à un moment donné, il faut avoir une façon de fonctionner avec les itinérants. Et d'abord, pour revenir au couvre-feu, c'est impossible pour eux, ça ne marchera pas. Et c'est pas eux qui nous contaminent. Depuis le début, on a peur de ça, on va être contaminé par les itinérants. Ça n'arrive pas, je l'avais averti dès le début. Ils vont pas tout monter en gang à Westmount puis aller licher à la face de tout le monde. C'est pas ça qui arrive, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils essayent de survivre. C'est pas eux autres qui apportent la COVID ailleurs. Alors, il faut les laisser dormir où est-ce qu'ils peuvent. Et au contraire, intensifier une surveillance, pas pour les persécuter, les envoyer plus loin dans le noir, mais leur donner des couverts, puis un café chaud, puis de quoi manger, puis ça fait déjà ça, puis au moins pouvoir leur parler, puis échanger comme des êtres humains.
Merci, Dan.
Un plaisir.